Thank you for that powerful.
Merci pour ce cantique inspirant. Après le discours de Frère Ballard, le chœur interprétera Divine Amour. Il sera dirigé par Lynn Hopkins et accompagné par Austin Wheelwright et Mackenzie Smith au violon. Ensuite, Rachel Huntsman-Smith fera la prière de clôture. J'ai maintenant l'honneur de présenter l'orateur de ce soir. Né à Salt Lake City, M. Russell Ballard est le fils de Melvin M. Russell Ballard, père, et de Geraldine Smith Ballard. Il est à l'Université d'Utah où il a rencontré et courtisé Barbara Bowen, qu'il a épousée le 28 août 1951 dans le temple de Salt Lake. Jeune homme, il a fait sa mission en Angleterre où il a été conseiller dans la présidence de mission. Il a été évêque deux fois. En 1974, il a été appelé président de la mission de Toronto au Canada. C'est là que je l'ai rencontré pour la première fois. Il était mon président de mission. Des personnes me demandent comment c'était de l'avoir comme président de mission. Je leur réponds que j'avais pour lui les mêmes sentiments qu'elles avaient pour leur président de mission. Il était merveilleux. Il a toujours été très zélé pour le travail missionnaire qu'il aimait beaucoup. Tandis qu'il était encore président de mission, il a été appelé au premier collège des 70 en avril 1976. Plus tard, il a été membre de la présidence des 70. En octobre 1985, il a été soutenu comme membre du collège des 12 apôtres. Avant son appel comme autorité générale, il avait travaillé dans l'automobile, l'immobilier et l'investissement. Il a fait partie de nombreux conseils et bureaux de l'Église et de la collectivité et il a écrit plusieurs livres. Sa femme et lui ont deux fils et cinq filles. Ils ont 43 petits-enfants et 37 arrière-petits-enfants. Frère Ballard.
Je remercie le chœur. L'un de mes petits-fils est dans le chœur. Merci, Tom, d'avoir fait ouvrir cette magnifique conférence par le chœur. J'apprécie cela. Les petits-enfants sont formidables. Ils peuvent faire toutes sortes de choses. Vous êtes magnifiques. Et les meilleurs jeunes gens et jeunes filles du monde entier. Vous avez l'évangile rétabli de Jésus-Christ pour guider vos pas dans la foi, dans le monde d'aujourd'hui, qui est de plus en plus méchant. Cela nous fait du bien, à Sœur Ballard et moi, d'être avec vous ce soir, ici au Marriott Center, et avec vous tous, qui êtes rassemblés dans d'autres bâtiments de par le monde. Grâce à la technologie moderne, je suppose que certains d'entre vous nous écoutent grâce à des podcasts ou d'autres merveilles électroniques. Mais où que vous soyez ce soir, je suis reconnaissant de pouvoir vous parler et je prie le Seigneur d'être avec nous afin que ce que je dirai puisse aider chacun de vous dans votre vie actuelle. Je remercie le chœur de l'Institut de religion de l'Université d'État d'Utah pour la belle musique et je remercie tout particulièrement Tom Mullen, l'un des présidents de Pieu, qui a été l'un de mes assistants pendant que j'étais président de mission. Il a servi avec nous à Toronto et je suis très fier de lui. Ce soir, j'aimerais revenir sur ce que j'ai dit lors de la dernière conférence générale. Ceux qui écoutaient, et j'espère que c'est le cas de certains d'entre vous, ont reçu des conseils des autorités générales et des officiers généraux de l'Église. Vous vous souvenez peut-être que dans mon discours, j'ai comparé les mouches artificielles utilisées par les pêcheurs à ces leurres artificielles utilisées par Satan pour nous attraper et nous amener dans son horrible monde de misère. Quelques jours après la conférence, j'ai reçu une lettre d'un charmant jeune homme qui s'appelle Chetan Snyder. Il a 11 ans, il m'a écouté et il m'a envoyé le dessin que vous voyez sur l'écran avec ce mot personnel. Les pêcheurs, attrapant le poisson grâce à un leurre artificiel, symbolisent la façon dont Satan nous attire grâce aux dépendances. La mouche artificielle. Lorsque le pêcheur jette le poisson sur la rive et que le poisson essaie de sauter pour retourner dans l'eau, je pense que ces efforts symbolisent la façon dont nous luttons pour retourner vers la sécurité de l'eau ou de l'Évangile. Mais nous avons besoin de l'aide de notre Père Céleste et de Jésus-Christ pour nous débarrasser de ces dépendances. Fin de citation. Merci, Chaitan, de ce résumé concis de mon discours de conférence. J'en cite cet extrait. Comme le pêcheur à la mouche qui sait que les truites sont poussées par la faim, Lucifer connaît notre faim, c'est-à-dire nos faiblesses, et nous tente, au moyen de leurs contrefaits, qui, si nous y mordons, peuvent nous arracher au courant de la vie et nous amener sous son influence impitoyable. À la différence du pêcheur qui attrape le poisson, puis le remet sain et sauf dans l'eau, Lucifer ne nous relâche pas volontairement. Son but est de rendre ses victimes aussi malheureuses que lui. Je prie le Seigneur de me bénir pour vous enseigner un principe très important. Le voici. Gardez sa simplicité à l'Évangile de Jésus-Christ. L'apôtre Paul avait ce même souci à son époque lorsqu'il a dit « Toutefois, de même que le serpent, le diable, séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Dans le livre de Mormon, le prophète Néphi explique la doctrine et l'évangile du Christ en termes simples. Je fais référence à des déclarations de deux Néphi au chapitre 31. Je vais choisir quelques déclarations. Vous pourrez lire l'intégralité du passage plus tard. Entre autres choses, Néphi a dit « Car mon âme fait ses délices de la clarté. » Pouvons-nous donc suivre Jésus si nous ne sommes pas disposés à garder les commandements du Père? Et le Père a dit, « Repentez-vous, repentez-vous, et soyez baptisés au nom de mon Fils bien-aimé. À celui qui est baptisé en mon nom, le Père donnera le Saint-Esprit. » Et j'entendis une voix venant du Père qui disait, « Oui, les paroles de mon bien-aimé sont vraies et dignes de foi. Celui qui persévère jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Car vous n'êtes arrivé jusque-là que par la parole du Christ, avec une foi ferme en lui. » Mes frères bien-aimés, il n'y a aucun autre chemin ni aucun autre nom donné sous le ciel par lequel l'homme puisse être sauvé dans le royaume de Dieu. Et maintenant, voici, telle est la doctrine du Christ. Joseph Smith, le prophète, a défini les premiers principes et ordonnances de l'Évangile dans le quatrième article de foi. Premièrement, la foi au Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, le repentir. Troisièmement, le baptême par immersion pour la rémission des péchés. Quatrièmement, l'imposition des mains pour le don du Saint-Esprit. Ce soir, je vais me concentrer sur la doctrine de l'Évangile de Jésus-Christ. Mes chers jeunes amis dans le monde, aujourd'hui, il se passe bien des choses qui sont en opposition directe avec les principes de l'Évangile. Vous devez connaître la doctrine du Christ, la vivre et la défendre chaque jour de votre vie. Il y a quelques années, l'un de mes missionnaires est venu me voir et m'a dit, « Président, Je suis en train de perdre mon témoignage. J'ai des questions auxquelles personne ne peut répondre. Mon évêque et mon président de pieu m'ont dit de les oublier et qu'ils n'avaient pas de réponse. Je lui ai demandé de noter ces questions par écrit, puis lui ai proposé de venir me voir dans 10 jours et que je répondrai à chacune d'elles. Comme il sortait de mon bureau, je me suis senti poussé à lui demander « Frère, Elder, depuis combien de temps n'avez-vous pas lu les Écritures ?» Il a reconnu que cela faisait longtemps. Je lui ai dit « Vous m'avez donné une tâche, il est juste que je vous en donne une. Lisez les Écritures au moins 1 heure par jour jusqu'à ce que vous reveniez chercher vos réponses. » Il a accepté de le faire. Quand il est revenu, j'étais prêt. Il m'a dit, « Président, je n'ai pas besoin des réponses. Je sais que le livre de Mormon est vrai. Je sais que Joseph Smith est un prophète. Ça va maintenant. » J'ai répondu, « Vous allez recevoir vos réponses quand même. J'ai beaucoup travaillé pour les trouver. » Il ne s'agissait que de propos anti-mormons. Après notre discussion, je lui ai demandé, « Elder, qu'avez-vous appris de tout cela ?» Il m'a donné une réponse très significative. « Président, j'ai appris qu'il faut donner autant de temps au Seigneur. » Voyons maintenant les points de doctrine fondamentaux de l'Évangile du Christ. Le premier principe doctrinal est la foi au Seigneur Jésus-Christ. Avoir la foi au Christ, cela veut dire avoir une ferme croyance qu'il est le Fils unique de Dieu et le Sauveur et Rédempteur du monde. Notre doctrine enseigne que nous ne pouvons retourner vivre avec notre Père Céleste qu'en nous reposant sur la grâce et la miséricorde de son Fils. Lorsque nous avons foi au Christ, nous acceptons et appliquons son sacrifice expiatoire et ses enseignements. Nous avons confiance en lui et en ce qu'il dit. Nous savons qu'il a le pouvoir de tenir ses promesses. Notre Père Céleste bénit ceux qui ont la foi d'obéir à son Fils. Nous croyons au Christ et nous croyons qu'il veut que nous observions ses commandements. Nous voulons montrer notre foi en lui obéissant. Par notre foi en lui, Jésus-Christ peut nous guérir physiquement et spirituellement. Ce soir, mes chers jeunes amis, pendant 1 minute, concentrez-vous sur la foi personnelle au Seigneur Jésus-Christ. Pensez à vous-même pendant que je vous poserai quelques questions. Êtes-vous heureux de la direction de votre vie et de votre foi au Seigneur Jésus-Christ? Aimez-vous Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos forces, de toute votre pensée, comme le Seigneur l'enseignait au docteur de la loi au 10e chapitre de Luc? Dans votre vie quotidienne, faites-vous les choses simples comme prier matin et soir, lire chaque jour les Saintes Écritures, utiliser un langage convenable, être honnête, respecter la parole de sagesse, être gentil et vous soucier des besoins des gens qui vous entourent, suivre le conseil des frères souligné dans cette dernière conférence, d'éviter complètement tout genre de pornographie. La pornographie ne peut pas faire de notre vie, ne peut pas faire partie de notre vie si nous avons vraiment foi au Christ. Je dis avec toute la force que je possède, si vous avez ce problème, arrêtez. Vivez-vous de façon à être digne d'une recommandation à l'usage du temple. Participez-vous activement aux réunions du dimanche, particulièrement à la réunion de Sainte-Cène, en étant digne de prendre la Sainte-Cène et de renouveler vos alliances avec le Seigneur. Vous, anciens missionnaires, vous qui êtes ici, qui m'entendez, avez-vous encore la dignité d'un serviteur du Seigneur Jésus-Christ dans votre tenue vestimentaire et dans votre comportement? Vous préparez-vous et recherchez-vous de façon active votre conjoint pour l'éternité? Je pourrais passer le reste de la soirée sur cette question. Mais je suis sûr que, à ce point, vous comprenez que nous n'approuvons pas les jeunes qui traînent en bande. Si vous n'avez pas encore compris, comprenez-le maintenant. En langage familier, calmez-vous. Nous recommandons les sorties convenables. Vous savez, c'est simple. Un jeune homme invite une jeune fille et ils passent un bon moment ensemble. Recherchez-vous un conjoint qui aime le Seigneur et honore son saint nom? Et vous qui êtes mariés, passez-vous régulièrement des soirées ensemble pour continuer à édifier et fortifier votre relation? Évidemment, il y a d'autres choses que je pourrais ajouter à cette liste. Toutefois, si vous vous efforcez sérieusement de faire de votre mieux pour suivre le Christ, alors vous pouvez répondre à ces questions et à d'autres de ce genre par un oui sonore. En pensant ce soir à votre foi personnelle au Seigneur Jésus-Christ, y a-t-il quoi que ce soit dans votre vie actuelle qui fait que vous savez qu'elle n'est pas telle que vous la voulez? S'il y a quoi que ce soit que vous savez dans votre cœur ne pas être acceptable pour quelqu'un qui a une foi réelle au Seigneur Jésus-Christ, permettez-moi de vous dire comment arranger les choses. Le repentir est le deuxième principe doctrinal de l'Évangile. Notre foi au Christ et notre amour pour lui nous poussent à nous repentir ou à changer nos pensées, nos croyances et nos comportements qui ne sont pas conformes à sa volonté. Lorsque nous nous repentons, nous éprouvons un chagrin divin et nous cessons de mal agir et augmentons nos efforts pour faire ce qui est juste. Le repentir sincère amène plusieurs résultats. Nous ressentons le pardon de Dieu et sa paix dans notre vie. Notre culpabilité et notre chagrin sont balayés. Frères et sœurs, soyez reconnaissants que l'Évangile de Jésus-Christ offre un moyen d'échapper aux fautes que nous commettons grâce au repentir sincère. Si nous ne savons pas nous repentir, souvent, de petites habitudes peuvent créer une dépendance. Nous pouvons tous éviter facilement d'être pris au piège par une dépendance, simplement en ne prenant pas de substance, ni d'habitude qui crée une dépendance. Ne vous y trompez pas, mes chers jeunes amis. Nous sommes tous des cibles pour Satan et ses subalternes. Il utilisera chaque tactique ou leurre trompeur qu'il a pour nous pousser, vous et moi, à faiblir, à négliger nos engagements et notre fidèle dévotion au Seigneur. Le troisième principe doctrinal de l'Évangile est le baptême. Ce principe, la plupart d'entre vous qui m'entendez, vous y avez participé. Le baptême par immersion pour la rémission des péchés, quelle chose merveilleuse. C'est la première alliance que nous contractons avec le Seigneur Jésus-Christ et notre Père Céleste. Le baptême est une ordonnance, c'est une cérémonie ou un rite sacré qui montre que nous avons conclu une alliance avec Dieu. Et Dieu a toujours requis de ses enfants qu'ils fassent des alliances. Une alliance est un accord solennel qui engage Dieu et l'homme. Dieu promet de nous bénir et nous promettons de lui obéir. Le respect des alliances apporte des bénédictions dans cette vie et l'exaltation dans la vie à venir. Souvenez-vous que le Christ nous a donné l'exemple en se faisant baptiser lui-même. Et nous avons la bénédiction et l'honneur de prendre chaque semaine la Sainte Cène, ce qui nous aide à rester dignes d'avoir toujours l'Esprit avec nous. C'est un rappel hebdomadaire de nos alliances qui nous aide à édifier notre foi et notre confiance au Seigneur Jésus-Christ. Le quatrième principe doctrinal est le don du Saint-Esprit. Jésus enseignait que nous devons être baptisés d'eau et aussi d'esprit. Le baptême d'eau doit être suivi du baptême d'esprit, sinon il est incomplet. Nous ne pouvons recevoir la rémission de nos péchés et naître de nouveau de façon complète qu'en recevant le baptême et le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit témoigne du Christ et nous aide à reconnaître la vérité. Il nous donne de la force spirituelle et nous aide à faire le bien. Il nous apporte la paix et nous réconforte dans les moments d'épreuve ou de chagrin. Il nous avertit des dangers spirituels ou physiques. Par le pouvoir du Saint-Esprit, nous pouvons ressentir l'amour de Dieu et ses directives pour nous. Ce don, mes frères et sœurs, est un avant-goût de la joie éternelle et une promesse de vie éternelle. Et finalement, le cinquième principe doctrinal, nous devons persévérer jusqu'à la fin. Une fois que nous sommes entrés sur le sentier étroit et resserré par notre foi en Jésus-Christ, par le repentir et par l'ordonnance du baptême, et que nous avons reçu le Saint-Esprit, nous devons faire tous nos efforts pour rester sur ce chemin. Il y a des années, notre fidèle patriarche de Pieux, qui avait plus de 90 ans, a pris la parole à la réunion de jeûne et de témoignage et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Je m'en souviendrai toujours. Il a dit, « Je prie chaque soir Dieu de faire que j'ai un témoignage ardent quand je mourrai. » Je lui ai dit, « Frère, après la réunion, de tous les gens que je connais, vous êtes certainement celui qui doit se faire le moins de soucis à ce sujet. » Sur quoi, il m'a saisi par les revers de ma veste, m'a tiré vers lui et me regardant dans les yeux tout près, m'a dit, « Mon garçon, j'étais marié, j'avais deux enfants. Mon garçon, nul n'est à l'abri avant la fin. » Puissions-nous être fidèles jusqu'à la fin. La doctrine de la foi au Christ, le repentir, l'engagement, le renouvellement et l'observance des alliances, le fait d'être dirigé par l'Esprit, tout cela deviendra un mode de vie. Nos actions dans la vie quotidienne sont modelées et gouvernées par ces principes doctrinaux. Je sais que certains d'entre vous qui sont rentrés de mission vous dites en vous-même, une partie de ce que frère Ballard cite est tirée du manuel inspiré « Prêchez mon évangile ». J'espère que vous reconnaissez certaines de ces citations et que vous avez déjà intégré leur sens dans votre vie. Ceux d'entre vous, jeunes gens et jeunes filles, qui n'êtes pas encore partis en mission, je vous suggère qu'il serait bien que vous ayez un exemplaire de « Prêcher mon évangile ». Étudiez au chapitre 3 la leçon intitulée « L'évangile de Jésus-Christ ». Elle expose très clairement et avec davantage de détails que ce que j'ai fait ce soir, les étapes de base nécessaires pour éviter d'être attrapé par les leurres artificielles de Satan et d'être arraché du chemin qui conduit à la vie éternelle. Qu'il est simple, l'évangile de Jésus-Christ. Comme il est important que nous restions sur le seul chemin défini par Dieu comme étant celui qui ramène à notre foyer en sa présence éternelle. L'Évangile est le plan du bonheur. Il est simple et beau. J'aimerais illustrer la façon dont les premiers principes de l'Évangile sont un pont entre la vie prémortelle, que je représente en levant la main gauche, et la vie éternelle, représentée par ma main droite que je lève. Le pont qui les relie est l'Évangile, la doctrine et l'Évangile de Jésus-Christ. Nous sommes venus du monde prémortel dans la condition mortelle pour nous efforcer de connaître et de vivre les principes de l'Évangile. Et nous nous retrouvons maintenant ici-bas et nous sommes sur le chemin du retour. Nous l'espérons en la présence de Dieu. Cela nécessite de la compréhension et de l'obéissance. Notre but, en nous efforçant de vivre l'Évangile, est de devenir candidats à la réception de toutes les bénédictions que notre Père réserve à ses enfants dignes et fidèles. Jésus a dit lui-même, « Or, voici le commandement. Repentez-vous toutes les extrémités de la terre et venez à moi et soyez baptisés en mon nom afin d'être sanctifiés par la réception du Saint-Esprit, afin de vous tenir sans tâche devant moi au dernier jour. En vérité, je vous le dis, c'est là mon évangile. Et vous savez les choses que vous devez faire dans mon Église. » Fin de citation. Maintenant, je reviens pour vous demander de réfléchir à votre propre vie. Comment vous en sortez-vous? Y a-t-il quoi que ce soit dans votre vie qui vous incite à partir à la dérive, loin des enseignements de l'Évangile, vers l'influence de Satan? Est-ce que vous vous accordez-vous au Seigneur autant de temps? Vous vivez dans un monde plein de technologies où il est si facile d'accéder aux informations électroniques, aux divertissements et aux réseaux sociaux sur votre ordinateur à la maison, votre iPad ou votre iPhone. Aucune génération avant vous n'a eu accès à une telle technologie à portée de main. Grâce à Facebook et d'autres réseaux, vous pouvez rester en contact avec vos amis dans le monde entier. Ce sont des outils merveilleux. Cependant, je vous avertis de ne pas laisser la technologie s'emparer de votre temps au point de devenir dépendant de son utilisation constante. Vous devez limiter son usage afin qu'elle ne vous prive pas de ce qui est essentiel, précieux et éternel. Nous n'avons qu'à regarder les nouvelles du soir, à lire les journaux pour nous rendre compte que le monde est dans une immense détresse. Il y a des tremblements de terre, des ouragans, des tornades en divers endroits. Il y a des guerres, des bruits de guerre. Il y a de la famine, de la souffrance et des génocides, sans parler des meurtres et d'autres actes de violence. Certains d'entre vous ont peut-être commencé à penser que dans le monde d'aujourd'hui, l'avenir n'aura guère de valeur pour lesquelles lutter. Je me souviens, jeune garçon de 13 ans, d'être rentré d'une réunion de la prêtrise le dimanche 7 décembre 1941 pour apprendre de la bouche de mes parents que le Japon venait de bombarder Pearl Harbor. Cet événement allait propulser les États-Unis dans une guerre mondiale qui faisait déjà rage en Europe depuis 2 ans. Il semblait alors que la vie que nous connaissions arrivait à son terme. Il y avait beaucoup d'incertitudes car beaucoup de jeunes gens étaient mobilisés dans l'armée. Cependant, aujourd'hui, exactement comme alors, au milieu de tous les conflits, de toutes les luttes et des influences du mal dans le monde, il y a toujours beaucoup de bien. Quand je suis né, il y a longtemps, quand vous étiez encore tous dans le monde des esprits, il n'y avait qu'une 20aine de pays dans le monde entier qui pouvaient plausiblement se dire des démocraties où les citoyens pouvaient jouir d'une fraction des libertés que nous considérons comme allant de soi. Maintenant, il y en a plus de 90. Cela veut dire qu'une plus grande partie des habitants du monde peuvent vivre, selon leurs propres croyances, dans la liberté. Aujourd'hui, dans le monde entier, la pauvreté régresse et les progrès dans le domaine de la santé sont extraordinaires, particulièrement en ce qui concerne l'hygiène, l'amélioration de l'accès à l'eau potable dans les pays en voie de développement. Ce qui se produit est remarquable. Les occasions de s'instruire deviennent aussi plus largement disponibles. Vous avez beaucoup de raisons d'être plein d'espoir et d'optimisme. Ne laissez pas Satan vous influencer et vous empêcher de croire au magnifique avenir qui vous attend. Nous nous préparons tous à jouir de la vie par les décisions que nous prenons chaque jour. Si vous êtes loyaux et fidèles à la doctrine et à l'évangile de Jésus-Christ, vous aurez dans votre vie de nombreuses possibilités merveilleuses. Dans l'Église, vos dirigeants de paroisse, de pieux et au niveau général seront inspirés et vous appelleront à servir dans les appels pour lesquels vous serez préparés en conséquence de votre choix sage d'observer les commandements de Dieu à présent. D'ici 30 ans, la direction de l'Église dépendra énormément de la façon dont chacun d'entre vous se prépare à répondre aux appels et à servir dans l'Église qui vous parviendront. Imaginez, il a fallu 98 années à l'Église, de 1830 à 1928, l'année de ma naissance, pour organiser ses 100 premiers pieux. Les 200 pieux suivants ont été organisés en 24 ans. Puis nous commençons à voir quelque chose de très intéressant. À la fin de 1960, 8 ans plus tard, le 300e pieu a été organisé à Toronto, au Canada, à l'époque où le président Monson était président de mission là-bas. Il y a 2 semaines, Sœur Ballard et moi-même avons assisté à une conférence du pieu de Toronto qui fêtait le 50e anniversaire de sa création. Et en 1964, seulement 4 ans après la création du 300e pieu, le 400e était organisé. 200 autres pieux ont été organisés pendant les 9 années qui ont suivi, et le 900e a été organisé en mars 1978. Bientôt, jeunes gens, le 3000e pieu sera créé. Qu'est-ce que cela a à voir avec vous, jeunes gens et jeunes filles qui êtes ici ce soir? Imaginez que l'Église crée 100 pieux par année. Cela veut dire que d'ici 2040, dans 30 ans seulement, le nombre de pieux aura doublé. Il y en aura environ 6000. Vous aurez entre 40 et 50 ans. Demandez-vous maintenant, où sont les 6000 présidents de pieux? Où sont leurs premiers conseillers, leurs deuxièmes conseillers, leurs secrétaires exécutifs, leurs greffiers? Où sont les 6000 fois 12, soit 72 000 membres de grand conseil? Et supposant que chaque pieu ait une moyenne de 10 unités, ce qui est la moyenne actuelle des pieux, aujourd'hui, où sont les 60 000 évêques, premiers conseillers, deuxièmes conseillers, secrétaires exécutifs, greffiers, présidents de collèges des anciens et leurs conseillers, dirigeants de groupes des grands prêtres et leurs assistants, présidentes et conseillères de la société de secours, des jeunes filles et de la primaire et leurs conseillères, etc., etc.? Où sont-ils? Je suis en train de leur parler à l'instant même. C'est vous. Serez-vous prêt à accepter les appels que le Seigneur vous enverra? Notre Père Céleste a un dessein éternel pour chacun de vous. Votre droit de naissance, la chance que vous avez d'être membre de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, est comme un miracle dans un monde de quelques 6 milliards d'habitants. Vous avez fait des promesses et pris des engagements très importants avec notre Père Céleste pendant que vous viviez avec lui dans le monde prémortel. Vous vous demandez peut-être Comment le nom des dirigeants d'auxiliaires, des évêques, des présidents de pieux et des autorités générales viennent à l'esprit de ceux qui ont la responsabilité de faire les appels à servir? Comment un président de pieux sait-il qui doit être évêque? Comment une autorité générale sait-elle qui doit être le président de pieux? Aujourd'hui même, j'avais les mains posées sur la tête d'un tout nouveau président de pieux. Nous avons réorganisé un pieu pendant le week-end. Quel honneur c'est, quelle immense responsabilité. Comment le président de l'Église sait-il qui doit être autorité générale? C'est par révélation que sont connus les noms des frères qui ont prouvé qu'ils sont fidèles et dignes de confiance, qui vivent les simples points de doctrine fondamentaux de l'Évangile du Christ. Ne laissez pas passer un seul jour sans faire des efforts pour être prêts à servir. Souvenez-vous que la condition mortelle est pour chacun d'entre nous le temps de se préparer à rencontrer Dieu. En fait, Amulek l'enseignait en ces termes. Voici, cette vie est le moment où les hommes doivent se préparer à rencontrer Dieu. Oui, le jour de cette vie est le jour où les hommes doivent accomplir leurs œuvres. Et maintenant, comme je vous l'ai dit précédemment, puisque vous avez eu tant de témoignages, je vous supplie donc de ne pas différer le jour de votre repentir jusqu'à la fin. Car après ce jour de vie qui nous est donné pour nous préparer dans l'éternité, pour l'éternité, voici, si nous ne faisons pas meilleur usage de notre temps pendant que nous sommes dans cette vie, alors vient la nuit de ténèbres où aucun travail ne peut être accompli. Fin de citation. Donc, chaque jour de votre vie, le Seigneur vous aidera si vous vous fiez à lui et si vous observez ses commandements. Le Seigneur fait savoir aux dirigeants responsables que vous êtes prêts à servir parce que vous êtes restés sur le sentier de l'Évangile, que vous avez vécu à la hauteur des engagements que vous y aviez pris avant de naître et que les engagements que vous avez pris à travers la doctrine de l'Évangile de Jésus-Christ vous guideront tous les jours de votre vie. Je vous suggère de commencer dès maintenant à accepter les appels. Ils vous prépareront pour vos futurs appels à servir dans l'Église. Faites le nécessaire pour édifier une vraie relation avec votre Père Céleste, mes jeunes amis. Vous êtes ses filles et ses fils spirituels. Vos parents divins vous aiment de tout leur cœur, comme le Seigneur Jésus-Christ. Ils veulent que vous suiviez le grand plan du bonheur qui vous ramènera sains et saufs en leur présence. À l'approche de la fin de cette réunion, je prie pour que chacun de vous s'efforce toujours de rester ancré aux principes doctrinaux et aux ordonnances de l'Évangile. Mes frères et sœurs, donnez toujours autant de temps au Seigneur, afin que votre témoignage ne s'estompe pas devant les faux enseignements du monde. Écoutez les frères, nous faisons tout notre possible pour vous enseigner la vérité et pour vous encourager à vous ancrer aux choses qui vous garderont sains et saufs et libres. Faites chaque jour les bonnes choses pour les bonnes raisons et vous vous en sortirez bien. Préparez-vous de toutes les façons possibles afin d'être prêt lorsque le Seigneur aura besoin de vos services dans son Église. Lorsque vous partirez dans le monde, vous continuerez à être éprouvés. C'est l'un des buts de la vie. Nous avons été envoyés ici pour déterminer exactement combien nous sommes réellement engagés et dévoués. Je pense qu'il est enthousiasmant de croire que nous pouvons en fait nous élever et atteindre à la grandeur en suivant l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. J'aime ce poème. Il s'applique à nous tous. Il s'intitule « Le chêne » Son auteur est Johnny Ryder. Jour et nuit, le vent violent soufflait, chassant au loin les feuilles du chêne, branches brisées, écorces arrachées. Il laissa l'arbre nu et épuisé. Mais c'est qu'il tenait bon, le chêne. Autour de lui, les arbres s'écroulaient. Le vent fatigué demandait, « Comment es-tu encore debout, le chêne ?» Le chêne a répondu, « Oui, je sais. Chacune de mes branches, tu peux les briser. Chacune de mes feuilles, tu peux emporter, secouer mes membres et me faire plier. Mais mes racines sous la terre sont ancrées, toujours plus fortes depuis le jour qui m'a vu naître. Et vois-tu, tu ne les éteindras jamais. Elles sont la partie la plus profonde de mon être. Jusqu'à aujourd'hui, je ne savais pas au juste combien j'étais capable d'endurer. Mais aujourd'hui, je le sais, grâce à toi, je suis plus fort que je ne l'aurais jamais cru. » Mes chers jeunes frères et sœurs, soyez solides comme le chêne. Apprenez combien vous êtes forts. Plantez votre foi et votre confiance en Dieu et au Christ profondément dans le sol de l'Évangile. Soyez toujours conscients des mouches artificielles qui nous sont offertes par Lucifer, le faux pêcheur d'hommes. Puissions-nous avoir assez de sagesse et de perspicacité spirituelle pour discerner et refuser ces nombreuses offres dangereuses. Vivez la doctrine du Christ, les principes fondamentaux simples de la foi au Seigneur Jésus-Christ, le repentir, honorer les alliances du baptême, vivez digne de la compagnie du Saint-Esprit et endurez jusqu'à la fin. Faites-le chaque jour, et l'Esprit du Seigneur sera avec vous pour vous garder en sécurité sur le chemin qui mène à la vie éternelle. Je vous rends témoignage. Je tiens à ce que vous sachiez que nous vous aimons. Vous porterez sur vos épaules l'avenir de l'Église. Vous avez un grand destin. Je prie de tout mon cœur pour que vous fassiez ce soir ce que vous devez, si vous devez apporter quelques corrections à la manière dont vous vivez. Je vous rends mon témoignage que Jésus est le Christ. Il vit. Cette Église est la sienne. Nous sommes à son service. Nous sommes le peuple de son alliance. Je le sais. J'en témoigne et je prie maintenant le Seigneur de vous bénir. Je vous bénis en son saint nom afin que vous trouviez la paix, la joie et que vous ayez dans le cœur la calme assurance que vous faites de votre mieux pour être digne de son saint nom. Je prie humblement pour que vous ayez cette bénédiction maintenant et tous les jours de votre vie. C'est mon témoignage, ma prière et ma bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Amen.